trop global, c'est un épisode entier dans ce récit. Un épisode climatique à part entière dans cette tournée. C'est la seule chose que j'ai écrite dans mon carnet sur Trop Global. Le tourbillon du temps qui file, et qui décidément dans ces tournées va beaucoup trop vite, mais aussi la densité des choses qu'on y a vues et ressenties pendant ces deux jours, ne m'ont pas laissé l'occasion d'écrire. La pierre de ce nouveau territoire, c'est le tuffeau. Une pierre écrue, légère et facile à travailler qui vaut à cette région de magnifiques maisons, châteaux et surtout des constructions troglodytes de toutes sortes.
Ouais, c'est des hameaux qui sont habités depuis... qui sont travaillés depuis près de 1000 ans et qui sont habités depuis 700 ou 800 ans. Pour les coups qui se font, ça a commencé il y a 10 ans, puis après pour faire tenir le chemin, puis après il y a eu un truc, puis après il y en a un qui travaille sur ça, puis il l'a lâché. C'était un peu...
Et parce que Philippe me dit, là, c'est quoi la pierre qui est ici?
C'est le tuffeau.
Comment tu dis?
Le tuffeau.
Du tuffeau.
C'est un mélange de calcaire et d'argile, quoi.
Ok.
Ouais.
Et c'est assez... tu peux la tailler à la cuillère,
Ouais, c'est pour ça qu'ils font des gros blocs et que c'était pratique de faire les châteaux comme ça, parce que tu peux tailler des gros blocs hyper pratiques, et donc ça faisait... Bon, les maisons vulgaires, c'était avec le reste, mais pour les châteaux, c'est que des beaux blocs, tac.
Non, mais les maisons, enfin là, tout le long, pour venir...
Magnifique. Ouais, c'est chouette. C'est hyper poétique, je trouve.
C'est beau,
voir la forêt au-dessus des autres trucs, t'es là.
On dirait qu'on est dans un autre monde, en fait. Et là-bas, c'est quoi, du coup? C'est encore une partie des gens qui habitent, enfin,
au-dessus, il y a un dôme, c'est ce qu'on appelle le lotissement, il y a un dôme, une yourte, une cabane crayon, ceux qui habitent au-dessus, quoi.
Ouais.
Là, il y a plus un autre truc avec tous les véhicules, il y a d'autres caves, d'autres trucs, on aura le temps de faire le tour.
Ouais. Et en bas, c'est un espace
commun. Ça, c'est tout l'espace collectif.
Ouais.
Il y a un bureau, bibliothèque de ce côté-là, une friperie par là-bas. Puis le bar cabaret, le bar extérieur qu'on voulait raménager en cuisine. Et derrière, cuisine d'été.
Les nuages de ce matin se dissipent. Un soleil timide caresse la verdure qui recouvre et dissimule le village. Je marche sur un chemin boueux qui me conduit à une grotte mystérieuse.
C'est pas une porte, ça.
À l'entrée de la grotte, une grande porte est ouverte comme une gueule, surmontée de deux yeux lumineux et colorés, faits de vitraux. Je suis les rails qui conduisent au fond de la grotte. C'est là que se tient le théâtre Troglodyte où on va jouer ce soir. Car Trop Global, c'est d'abord un village creusé et taillé dans la roche. Mais c'est aussi, et surtout, une vie collective creusée et taillée à fleur de peau dans l'âme humaine.
Sous les rails, quoi. Ils se relevaient de sous les rails. Donc, avec une tronçonneuse. Il n'y avait pas de chaîne, mais bon, je ne sais pas. C'était,
C'est Paco qui nous accueille dans cet endroit hors du monde. Cet homme au sourire facile et vrai impose le respect par sa générosité, sa bonté, sa grandeur d'âme. Créatif, soucieux des autres, il s'est installé ici il y a près de 30 ans. Il travaille activement aux utopies de vie collective, à la fois directement dans son village, mais aussi dans la commune de Grésillé, où, en tant qu'adjoint au maire et responsable de la culture, il prend de belles et audacieuses initiatives pour rendre la vie des gens plus agréable et plus créative. Lui aussi, à sa façon, est bien un encerclé illuminé, un de ces insondables insoumis qui font dans leur quartier vivre les utopies.
Donc c'est très sympa qu'on a fait plein de trucs avec toutes les assos, de les regrouper un peu, de faire en sorte que... Parce que du coup, la nouvelle commune, c'est sympa parce qu'il y a plein d'assos différentes qui font plein de trucs, quoi. Donc les coordonnées, arriver à faire un agenda à partager avec tout le monde, qu'on puisse communiquer sur tout ce qu'il y a sur la commune, partout. Et un truc qui est sympa aussi, c'est Courant de Loire, ils font toute toile dehors pendant une journée, il y a une vingtaine de peintres qui viennent et puis ils peignent un tableau de 1,50 sur 1,50. Et puis en fait, après, tous les tableaux qui sont faits, les gens ils peuvent venir les prendre et puis les installer chez eux. Mais dehors, il faut que ce soit visible de l'espace public, quoi.
Ah, c'est génial.
Donc en fait, là, ça fait 10 ans, il y a une centaine de tableaux partout dans les rues. Des fois, tu tombes sur un tableau sur les murs des maisons, sur les trucs, les machins, au collège, dans les salles de spectacle, il y a plein de tableaux. Qui sont faits aussi, donc c'est ça, j'adore, c'est trop sympa, quoi. Mais ça, c'était avant qu'on arrive. Hein.
Mais... Paco ne le dira jamais, mais aujourd'hui, il est le mur porteur de l'édifice trop global. Sa présence et sa lumière seule tiennent cet îlot du côté de la beauté et hors des tempêtes. Car ici, c'est également un lieu où l'on peut faire naufrage.
Sans même le savoir, nous avions commencé à nous organiser. Nous étions devenus nombreux. Nous étions la multiplicité. Cet espace, à la fois si petit et si extraordinairement grand qui nous réunissait, s'est transformé en une nouvelle fenêtre de possible. Un endroit d'expérimentation de l'enfer, où les naufragés que nous étions tous ont pu trouver refuge et commencer à se reconstruire de zéro. Nous étions comme sur un radeau à la dérive, pouvant aller vers tous les horizons au milieu d'un océan de mystère.
Le village trop global est une multiplicité. Un mélange étonnant, difficile à saisir. Lieu collectif où une trentaine de personnes peuvent vivre, il revêt autant de visages que d'habitants. Chaque personne qui y vit y grave, le temps qu'elle y reste, un peu de son âme. Des artisans talentueux, sculpteurs, tailleurs de pierre et vitriers y ont insufflé une folie colorée et de la grandeur artistique. Presque tous les murs sont couverts de fresques et de sculptures. La présence de la forêt et des fleurs, des visages taillés dans les pierres recouvertes de mousse et des œuvres d'art lui donnent des allures de village d'elfes. Par ailleurs, les petites caves où l'on y vit, les galeries secrètes qui les relient, les passages secrets et les espaces collectifs marqués par la fête, l'absence de règles et une insouciance enfantine des responsabilités lui donnent l'allure d'un village créé et régi par de grands enfants. Ça me fait tout de suite penser au pays imaginaire de Peter Pan, cette île habitée par les enfants perdus qui y vivent dans des arbres. Et enfin, par son côté roots, par son côté naufrage, par l'impression que c'est un lieu en chantier permanent, par le désordre qui y règne, trop global a des allures de camp de base, de réfugiés anticapitalistes réfractaires au reste du monde, qui ont fermement l'intention de lutter contre, mais qui ne semblent pas encore avoir trouvé leur propre manière de bâtir, de créer, de vivre pour. Inévitablement, cet endroit me fait penser à mon livre Carpe Noctem. Si les encerclés existaient vraiment, ce village serait assurément un de leurs repères. Justement, peu de temps avant de partir, j'étais en train de faire le montage de l'adaptation audio de Carpe Noctem, et précisément de ce moment où mon personnage de Célène découvre la tanière, la cabane dans laquelle vit le groupe de rebelles qu'elle vient de rejoindre. C'est Lucie Bottiveau qui fait la lecture.
Voilà donc mon nouveau monde. La tanière n'est pas spacieuse ni confortable, mais elle rassemble tout ce qu'il faut pour en faire un foyer. Plus qu'un simple endroit où l'on peut se cacher, c'est un lieu de vie et de partage. C'est un habitat à la fois politique et sauvage, animé par une camaraderie unie, fougueuse et bordélique. Le rez-de-chaussée se compose d'une seule pièce avec un poêle, une grande table en bois recouverte de bazar et un canapé de fortune confectionné à l'aide de couvertures posées sur des caisses qui contiennent armes, munitions et trousses de soins. Près de l'entrée se trouve un espace cuisine avec une vieille gazinière, une étagère pour les provisions alimentaires, quelques ustensiles et le désordre typique d'une vie en communauté. L'horloge rétro accrochée au mur, bloquée à 3h15, ne fonctionne pas et semble servir plutôt à accrocher des stylos et des notes. Je comprends comment, dans ce monde, le système D est tout à la fois un facteur de convivialité, une nécessité pragmatique, un outil indispensable à la survie et un véritable art de vivre.
Le soir, après le spectacle, je traîne un peu autour de la guinguette extérieure. Les gens sont regroupés autour du bar et du grand feu qui trône au milieu de la place collective. Je discute avec Cam et Melchior. Melchior, c'est le fils de Paco. Et Cam, c'est son amoureuse. Melchior a grandi dans cette île du monde imaginaire. Il en connaît tous les secrets. Cam et lui m'en parlent avec tellement de passion que j'ai l'impression, le temps d'une discussion, d'avoir toujours vécu là avec eux, moi aussi. Là, on visite la bibliothèque, mais la lumière ne marche plus.
Ça marche pas.
Ça marche pas.
J'ai pas de lumière,
monsieur. J'ai pas mon tête. Ouais. Mais voilà.
Ça, t'as dû passer un bon nombre d'heures ici quand même.
Ah, dans la bibliothèque, ouais, carrément. Carrément, j'ai lu tout le rayon BD.
Pour les enfants, ça doit être trop bien.
Ah, je me suis régalé.
En plus, t'as plein de petits passages secrets.
Ouais, carrément. Il y a des trucs qui passent de partout. Tu peux passer des carrières à juste ici, derrière. Il y a un passage derrière le bar, des carrières au fond, là. Qui remène au fond derrière. Il y a une petite échelle. Hop, ça remonte là. C'est génial. Tu te balades.
Ce qui est drôle, c'est quand ce que tu me racontais, c'est que les gens, des fois, quand ils arrivent au village, ils s'adressent aux adultes pour savoir, pour visiter le truc. Alors que c'est des gens qui peuvent être que de passage. Oui. En fait, ils s'adressent à Melchior et Zoline, ils peuvent leur tout leur dire.
J'ai tous les secrets. Mais personne ne vient me voir. Je la regarde de loin, je fais. Si, ça veut.
Même quand tu croises des enfants du village, aujourd'hui, des petits, tu vois qu'ils sont différents aussi. Ouais. Ils sont pleins d'énergie, ils sont un peu plus libres quoi, que les autres.
Ouais, c'est un peu les enfants du monde imaginaire.
Ouais, c'est ouais. Donc il y en a, ils sont pas toujours faciles à gérer, mais...
Le bureau. Le bureau.
Puis t'as des cheminées partout, ouais, du coup quand t'es dans le bois, t'as, l'hiver t'as les fumées qui sortent d'un peu partout, mais t'sais, t'as l'impression d'être déjà à terre quoi, donc tu te dis putain, en dessous y a des cheminées qui sortent, qui sont creusées, qui sont... Il y a plein de tailleurs de pierre, plein de sculpteurs, il y a des ateliers un peu partout.
tout le monde trouve ça bien, quoi.
Ça, c'est chouette. Il doit peut-être un atelier peinture.
Bah, oui, ça pourrait. Je suis en année de césure, j'ai passé le bac l'année dernière, j'étais censée prendre une année pour faire plein de choses, donc je fais des stages, je fais des trucs, je prends, et en fait je vais prendre encore du temps, je vais pas repartir en études tout de suite pour pouvoir voyager.
Elle aussi, c'est une étoile qu'on devait recroiser sur notre trajectoire quelque part dans le grand mystère. Cam, elle nous a vus l'été dernier au refuge de l'Estrault, lieu emblématique de notre tournée à pied dans les montagnes. C'est là-bas que j'avais travaillé plus jeune. J'y ai passé 6 étés en tant qu'aide-gardien. Alors quand j'y retourne, c'est toujours un peu une montagne maison pour moi. Je me souviens de Cam. Ce soir-là, elle campait avec son beau-père. Il n'avait pas prévu de couverture car dans les vallées, c'était la canicule. Mais les nuits en montagne sont très froides. J'étais allée leur chercher des couvertures dans le refuge et je les avais obligées à les prendre pour la nuit, ce dont elle m'avait bien remercié le lendemain. Ce soir-là, ça n'avait pas été notre meilleure soirée du tout, point de vue spectacle. Pour une fois, le refuge était bondé. Près de 40 personnes y passaient la soirée. Malheureusement pour nous, il y avait deux gros groupes de 15 qui étaient bien plus en mode bringue qu'en mode poésie. C'était mal tombé. J'avais espéré qu'ils sauraient se faire prendre par la surprise, par notre proposition poétique de la soirée. Mais la magie n'avait pas opéré. En fait, si, elle avait opéré. Mais dans l'invisible. Pas là où on l'avait cherchée. Elle avait tracé son chemin de mystère jusqu'au cœur de Cam. On ne l'apprend qu'ici, à trop global. Lorsqu'elle a su qu'on venait ici en piano-vélo, Cam m'a écrit une lettre, qu'elle me remet le soir même. Je la lis à Philippe au petit déjeuner, et de petites larmes toutes remplies de douceur et d'intensité tombent dans le café. Lettre à Johanna. J'ai décidé de t'écrire une lettre car je crois que je ne sais pas trop comment faire autrement pour exprimer ce qui réside sur mon cœur depuis que je vous ai rencontrés. Cela s'est passé fin juillet dernier, au refuge de l'Estrault. J'ai grimpé la montagne sans m'attendre à ce qu'il allait se passer. Cela m'a marqué tellement plus que ce que j'aurais imaginé. On a parfois un impact sur des individus que l'on n'aurait pas soupçonné. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je me décide à te compter combien tu m'as apporté. L'été battait son plein quand j'ai entrepris le sommet de l'Estrault. J'étais, et suis encore, à un point culminant de ma vie. Je sortais tout juste de l'école, venais de passer le bac et d'avoir 18 ans, et me retrouvais alors timidement devant la grandeur de la vie et de mes rêves. Si j'avais su qu'en entrant dans le refuge au beau milieu de l'après-midi, je vous y aurais trouvé, j'aurais sûrement pris le temps de respirer pour me préparer à découvrir que les étoiles étaient cachées derrière les murs. Plus tard dans la soirée, je me suis assise sur un banc au fond de la salle et j'ai commencé le voyage. Vos mots ont pansé mon cœur. Ils ont résonné en moi comme si je les avais attendus jusque-là. Ils ont fait vibrer mon âme d'enfant et d'adulte à la fois. J'ai acheté votre recueil ce soir-là pour pouvoir garder cette magie près de mon cœur. Je ne pouvais pas faire autrement. Je l'ai lu et relu, dévoré et décoloré à force de l'avoir dans mon sac. Je l'ai fait voyager comme il me faisait moi-même m'évader. J'en ai parlé, je l'ai raconté, et après avoir tant hésité, j'ai même réussi à le prêter pour que, une fois de plus, il puisse opérer. Votre spectacle a redonné le goût de l'espoir à une petite fille tétanisée du monde dans lequel on l'a fait grandir. Une petite dont l'optimisme éternel s'était peu à peu essoufflé, jusqu'à presque s'éteindre, comme le feu privé d'oxygène. Elle commençait à s'affaiblir. Votre art avait su être sa bouffée d'air, avait su redonner vie à son énergie profonde. Elle avait retrouvé l'espoir, à ce moment si important de sa vie, où elle en avait tant besoin pour partir et tracer son chemin, le sien, celui qui n'appartenait qu'à elle. Depuis, je trace ma route et tente comme je peux de faire changer un tant soit peu ce monde qui jadis me faisait tant pleurer. J'ai enfin trouvé les étoiles. Depuis ce jour,
Je suis revenue en Anjou et j'ai eu le temps de repartir bien des fois, mais toujours j'ai pensé à t'écrire. Sans trop savoir quoi dire, j'ai attendu. Sans trop savoir quoi attendre, je suis restée convaincue que le hasard n'existait pas. Malgré cela, je suis restée étourdie en découvrant que vous passiez à Trouglobal, ce village où une part de mon cœur réside. J'ai beaucoup rigolé en me répétant que les choses se font comme elles doivent se faire, et qu'on aurait beau lutter, on n'y pourrait pas grand-chose. J'ai repensé au fait qu'ici, j'avais gravé un extrait d'un de tes poèmes sur une de mes poteries, que certains personnages de mes histoires étaient directement inspirés de Philippe et toi, et enfin, je me suis souvenue de ce qui semble être un alignement parfait. J'avais prévu d'organiser une grande fête de fin d'été, bien des mois avant de tomber sur vous pour la première fois. Je ne savais pas pourquoi mon cœur me poussait à faire la grande fête de la vie et d'y inviter tout le monde. Mais j'ai écouté mon intuition et je l'ai fait. Amis, famille, famille recomposée, les uns et les autres qui pourtant ne s'entendaient plus. Mais étonnamment, ils sont tous venus, avec du soleil, de l'art et de l'amour. Plongé dans tous les préparatifs, j'ai installé une scène et tout ce qu'il fallait dans la ferme familiale. La veille de la fête, j'ai relu des passages au hasard dans le recueil et suis restée hébétée. C'est un monde vivant tenu par les vivants. Face à l'immensité des choses à faire, à refaire, à recréer, à renverser, ce n'est plus la peur qui domine, c'est l'enthousiasme. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir apparaît comme une grande fête que l'on prépare ensemble. C'était pour ça. Je devais commencer à construire l'avenir, maintenant que j'avais retrouvé l'espoir et l'enthousiasme, grâce à vous. Je pouvais avancer avec tous ceux que j'aimais et qui s'étaient à présent retrouvés. Tout s'est calmé, tout s'est aligné. Il fallait que je te le raconte, l'impact que vous aviez eu sur ma vie depuis les hauteurs de votre province. Tout ça pour vous dire merci. Merci d'avoir donné vie à vos espoirs et idéaux et de les clamer aussi joliment sur votre route. Je remercie la vie, aussi belle puisse-t-elle être, de vous avoir remis sur ma route, pour avoir la chance de vous dire de jolies choses à mon tour. Voilà, c'est tout. Je t'ai rencontré en haut d'une montagne, tu m'as prêté tes couvertures pour la nuit, et tu as changé ma vie. Avec tout mon amour. Cam.
Dehors la pluie. l'automne reste encore un peu. Je t'en prie sur le seuil.
Dimanche matin au village trop global. Je sors de la cave dans laquelle on a dormi et rejoins Philippe dans la cuisine collective. Pendant que Philippe et moi on boit un café salvateur en tartinant de beurre salé nos tranches de pain grillé au feu, Claire s'active. Elle trie, elle range, elle nettoie avec un agacement que je partage facilement le bazar de la soirée de la veille, notamment celui causé par l'alcool.
Fonction de la pluie et...
Ouais, bah la pluie là c'est annoncé toute la semaine je crois.
Ah ouais,
ouais. Bah moi ça m'arrange parce que dans les vignes là, il faut que ça pleuve pour qu'on puisse attacher les baguettes. Mais c'est vrai que...
Tu travailles dans les vignes toi?
Ouais, là je viens de finir la taille, du coup j'attache les baguettes mais c'est un peu sec en ce moment du coup...
Bah là c'est bien.
Ouais, ça va avoir pas mal.
Tu vas voir ce qu'il faut.
C'est pas, il a pas ouvert la bière je pense pas. J'adore vider les bières. Je pense pas qu'il ait bu une bière au matin.
Non, c'est pas trop son genre.
Non, c'est pour ça.
On peut être surpris. Mais...
Non, les bières, je déteste l'alcool. Du coup, si je, quand je peux vider, c'est bien.
Ah ouais, c'est...
Je comprends pas les gens qui
picolent. Ah oui, ben... Après, il y en a un peu des gens qui picolent ici, quand même.
Oui, ben malheureusement, il y en a beaucoup qui picolent.
Ouais, c'est bien ça qui est... Ça doit pas être toujours...
face. C'est très chiant. Bah là, après, il y a des jeunes, des mecs, des garçons qui étaient là, qui des tchèques là.
Oui.
Beaucoup là, qui est très relou, tout alcoolisé. Mais lui, là, il est pas du village.
Ouais, ils sont à la passage, ouais.
Mais bon, regarde ce que je lui ai dit, si tu bois trop, attends, on te coupe au cul, tu vois. Mais... je déteste ça.
Ouais, moi, je
peux pas les supporter.
Et toi, tu, du coup, t'habites
là dans la maison, en face de, je sais pas, la maison de la Forge, là, on voit le toit en ferraille. La grande maison où il y a la
Forge. Ah oui, c'est où vous avez refait le toit, là, récemment.
Ouais, ouais, c'est ça. Ah, j'habite dans la maison. Ok,
parfait. J'ai pas encore visité le...
Ouais, bah, le collectif.
On n'a pas encore visité tout le village, tu vois.
Ouais, il y a tellement...
Le dimanche matin, on traîne un peu les pieds. Je ne suis pas mécontente de quitter la boue, le froid, les caves peu confortables et le désordre des naufragés. Mais en même temps, je ne suis pas du tout pressée de partir.
C'est très simple, la bâche, elle s'est barrée.
Ah, c'est pour ça.
Ah bah oui. Ah bah, on sait qu'il y a des fuites, hein. C'est juste que là, il y a eu un coup de vent ou un truc qui a éteint la bâche. Normalement, il ne pleut pas.
Paco nous fait visiter son île imaginaire.
Et là, ce qui était remarquable ici, c'était entre autres, c'était le carrelage. Parce que tout est en récup. Mais les copains, ils se sont tués, ils se prennent la tête.
J'aimerais m'imprégner encore de ce pays imaginaire peuplé d'elfes anarchistes. Suivre Melchior, l'enfant du pays, pour découvrir toutes les galeries secrètes et en rencontrer tous les habitants. J'aimerais encore tant pouvoir échanger avec Cam, reparler de cette lettre qu'elle nous a écrite, et se dire tant d'autres choses.
Ça, en fait, cette partie était fermée, là où il y a l'arche, en fait.
Ouais, okay.
Et ça, c'était une autre cour, qui était de l'autre côté, puis le bureau, il s'arrêtait, c'était en trop gros, quoi. Et du coup, on a creusé cette cour-là, on s'est dit, ah bah tiens, on pourrait faire relier les deux pour faire un passage. Donc tout ce qui a été monté là, c'est lui qui l'a monté, quoi.
C'est pas mal, c'est Zaz qui a fait savoir là, c'est ça.
Voilà, lui, il était dans le sculpteur, il y avait ça, c'était juste un trou qui n'allait pas très loin, quoi. Mais qui a été découvert encore par un gars qui a dit, ouais, je crois qu'il y a une cave, c'était complètement enseveli, quoi. Mm-hmm. Il dit, ouais, je vois un autre truc, ça part et tout, je peux creuser. Bah, ouais, vas-y, creuse et tout. Puis il a creusé, il a fait un truc à l'étage, après ça s'est écroulé, parce qu'il a construit un peu trop vite. Mais ça, le truc qui reste, là, par exemple, ça, c'est... Ça fait des petites choses, la Julie l'a repris, elle vient de finir, elle a fait. Là. C'est ça. Et puis, ouais. Et puis un autre couloir qui part et qui va dans le fond de là où la première pièce que je vous ai montrée pour dormir,
oui.
Là où
il y a les lumières. Okay. 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 Oh, putain,
en fait, tout communique.
C'est un détail.
Ouais, ça, tout communique de partout. Quoi. Je sais pas pourquoi c'est ouvert, ça. Ouais. Il y a derrière, c'est pas terrible. Ah, elle a bien bossé, c'est un genre de sculpture complètement, complètement ouais. Foufou, quoi. C'est hyper organique. J'adore. C'est pareil, toute cette course, c'était complètement enseveli, il n'y avait rien du tout, quoi. Il n'y avait rien du tout, à part un fond de cave ici pour mettre du bois un peu, quoi.
Et ça, c'est la cave de Morin, en train de la refaire.
Il y avait un puits de lumière dans celle-là. Petit à petit, le puits de lumière, il a été. Le puits de lumière, c'est un effondrement par en haut. Et puis, bah, voilà.
Qui nettoie les chiottes? Je regrette de ne pas avoir allumé mon enregistreur quand il nous a raconté comment fonctionnait leur système de toilette. Ici, évidemment, comme d'ailleurs dans trois quarts des endroits qu'on a visités, c'était des toilettes sèches. Les seaux des toilettes sont vidés et étalés avec de la paille dans un grand bac où tout le caca, le pipi, et peut-être même le caca-pipitalisme, seront promis à un avenir meilleur. Au bout d'un certain temps, je ne me rappelle plus combien, il faut récupérer toute cette matière et la mettre dans le bac d'à côté, où elle deviendra compost au bout de 3 ans. Un système qui garantit des champs fertiles, une autonomie totale sous forme de boucle où tout se relie, et qui est une démonstration efficace qu'on est tout à fait capable de faire quelque chose de bien, même si on est parti de la merde. Et pour Paco, c'est aussi l'occasion de réfléchir tout en faisant cette tâche, de joindre la pensée au geste, de trier sa merde mentalement. Ce qui nous choque un peu, Philippe et moi, c'est que depuis 5 ans, c'est toujours Paco qui fait cette tâche, seul. Aucun habitant de Trop Global n'a voulu l'aider ni prendre part à cette corvée pourtant essentielle de la vie collective. Il y a une sorte de blocage enfantin, nous explique-t-il. Qui donc nettoie les chiottes ? On dit souvent que c'est à ça qu'on voit qui est le chef d'une maison. C'est celui qui s'occupe de nettoyer les chiottes. Paco ne se définira jamais comme chef. Et d'ailleurs, dans un endroit pareil, il ne pourrait pas y en avoir. Mais on est sidérés, Philippe et moi, par sa façon de s'acquitter quand même de cette tâche sans monter au créneau, sans se dire qu'il y a un problème dans l'organisation de cette vie collective, sans développer de rancune envers les autres. Il faut que ce soit fait, donc il le fait. Et si les autres ne veulent pas le faire, ils ne le feront pas. Aucune police, ici, ne viendra faire appliquer les règlements.
La fureur de vivre, service, l'idéal, aversion, gloire, chante parmi les ombres,
joue dans le noir,
de la pénombre,
illusion,
celle qui conçoit,
aide,
la formulation secrète,
l'idéal, les prétendants,
de la vie, le sommeil,
accueil
des rêves,
des figures.
Ce n'est qu'après cette visite que je saisis un peu ce qui se passe ici. Ici, il n'y a pas de tuteur pour les plantes, végétales ou humaines, qui poussent. On laisse faire. La nature se déploie dans tous ses paradoxes, toute sa beauté et toute son obscurité. Les grottes y côtoient le ciel, la boue, les jardins. Les fleurs magnifiques se déploient autant que les ronces. On ne cherche pas à trier, à tailler, à privilégier une chose plutôt qu'une autre. Et tout peut jaillir de tout. On est comme dans un ventre de l'univers, un chaos primordial, une essence poétique. Je me dis que si Baudelaire avait vécu à notre époque, il aurait sans doute adoré cet endroit. Lui qui trouvait que la vraie beauté ne jaillissait qu'à partir d'une bonne dose de chaos. On quitte Paco, Gersand, Melchior, Zoéline et Cam comme on quitterait notre famille. Évidemment, on part en retard pour rejoindre notre prochaine étape. Il ne faut pourtant pas traîner car à 17h, on joue à Muret-Rainier, tout près d'Angers. Mais on traîne. On traîne. On enracine, nous aussi, ici, un petit bout de notre âme.
Ici, j'ai vu des passionnés, déterminés à construire un monde meilleur, par tous les moyens. Ayant choisi une méthode extrême, c'est vrai, mais parce qu'ils sont convaincus que c'est la seule capable d'abolir l'ancien ordre. Convaincus que notre salut naît dans l'absolu. Adeptes de l'engagement fort, ils ne se sentent pleinement vivants que s'ils ont la certitude d'aller au bout des choses, de miser tout ce qu'ils sont. Ce sont des poètes de la vie qui luttent parce qu'ils ont de l'espoir, qui ne jalousent que leur propre liberté, qui reprennent dans le cri de guerre ce que le silence leur a volé, qui sont prêts à donner tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire leur vie, pour l'utopie. C'est pour tout ça qu'ils sont dangereux.
Suite du voyage dans le chapitre.